Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why, this is why,
this is why I'm hot. France Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique, comme tous les dimanches de 18h10 à 19h30 en direct. Ce soir, on parle de politique culturelle, de numérique, on parle des médias dans cette émission et à l'intersection de ces trois secteurs, les séries télévisées. C'est une industrie culturelle, c'est un secteur clé désormais du numérique et même un média à sa façon. Les séries ont des festivals, notamment Sériemania, un festival international 100% séries qui devait se tenir du 20 au 28 mars à Lille et qui a été annulé. Pourquoi et surtout comment on annule un festival de cette importance? Quelles en sont les conséquences sur le plan économique bien sûr, mais aussi au niveau des contenus? Et cet exemple évidemment reflète la situation de la plupart des festivals, mais aussi depuis hier soir de toutes les salles de cinéma, tous les musées et tous les lieux culturels qui sont désormais fermés en France et sans doute au moins pour 3, 4, 5, 6 semaines. Laurence Herzberg est la directrice du festival Sériemania et mon invitée ce soir. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Merci d'être venue en dépit de tant de circonstances à la fois exceptionnelles et difficiles. Ce fut un crève-cœur, j'imagine, que de prendre cette décision, d'ailleurs avant que le gouvernement ne vous y oblige.
C'est jamais facile de mettre à la poubelle 10 mois de travail et d'arrêter juste avant l'activité de 80 personnes.
Avec vous, on va également essayer d'être un peu positif ce soir en parlant des séries, tout simplement. Elles s'invitent chez nous massivement, sans doute, en cette période de confinement. On est chez soi et les séries vont être pour des millions de Français peut-être l'un de leurs passe-temps favoris, l'un de leurs compagnons. Que regarder? Quelles recommandations faire en ces temps de Covid-19? On en parle ce soir tout au long de cette émission. En première partie de Soft Power, nous ferons le point justement sur les questions de culture, de médias, de numérique, partant de Covid-19 avec les dernières informations, ce qui plonge économiquement et ce qui paradoxalement en profite. On parlera également de ces plateformes qui vont devenir indispensables dès demain pour les écoliers et les étudiants priés de faire leurs devoirs à partir de sites web. Zoé Sfez de France Culture et Emmanuel Paquette sont à mes côtés pour traiter de toutes ces questions. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Les deux.
Bonsoir.
Et puis deux livres ce soir au programme de Soft Power, Les plumes du pouvoir, un livre signé Michael Moreau, un intéressant ouvrage sur ces plumes des hommes politiques. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Les plumes, ce sont des hommes de l'ombre au fond.
Oui, même si depuis une quinzaine d'années, il y a de plus en plus de leaders politiques qui assument avoir une plume.
Et puis, parfois, ils sont même cités sur leurs livres comme collaborateurs ou autres.
Exactement. Et puis, oui, de plus en plus, effectivement. Et puis, avec des méthodes différentes de travail qu'on verra. Mais
c'est ce qui est passionnant dans ce livre dont on parle dans quelques minutes. Et puis, Mr. K, du journaliste Jérôme Le Filiatre, qui s'intéresse à ce milliardaire tchèque Daniel Kretinsky qui rachète les journaux français Marianne, bien sûr, à une entrée au capital fort commentée au Monde, à Télérama et à l'Obs. Libération, pas de menace, Jérôme Le Filiatre?
Je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour encore.
Vous êtes journaliste à Libération.
Journaliste à Libération, mais assurément Daniel Kretinsky a d'autres cibles
des ambitions
médiatiques en tête.
Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce dimanche en période un peu particulière, c'est le moins qu'on puisse dire. L'émission est réalisée ce soir par Véronique Villa, la régie Valentin Bobinet. Cette émission a été préparée par Nathan Marcel Millet avec pour les réseaux sociaux David Pata, car vous pouvez suivre cette émission sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power de Spotify ainsi que sur Facebook, sur LinkedIn et bien sûr en podcast chaque semaine en vous abonnant gratuitement au podcast sur le site de France Culture, sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power jusqu'à 19h45 exceptionnellement à cause des élections et d'une soirée électorale qui aura lieu en direct à partir de 19h45 sur notre antenne en direct. Donc vous avez le programme, c'est parti. France Culture, 18h14, l'actualité des industries culturelles et du numérique. Première séquence, premier segment de Soft Power ce soir avec nos chroniqueurs, Emmanuel Paquet de l'Express et Zoé Sfez de France Culture, et aussi nos invités qui peuvent participer à ce débat. Social distancing, la distanciation sociale. Cette expression est devenue omniprésente dans nos vies au point que le président Trump l'a tweeté sans autre forme, sans autre chose. D'ailleurs, il a juste tweeté, acte de folie comme ça. Distanciation sociale, social distancing, c'était hier à 14h47 précisément, tout à coup, ça lui a pris. La distanciation sociale, tel est justement le contraire finalement de la culture, de la musique live, des musées où l'on se déplace ensemble. La culture vise au rapprochement social, au contact, au commun, au partage. Et le coronavirus, qui est l'ennemi de l'homme, un peu l'ennemi numéro un même en ce moment, l'est aussi de la culture. Coronavirus et culture, deux mots qui ne font pas bon ménage. Et les institutions culturelles, les musées, les théâtres, les festivals, et depuis hier soir, les salles de cinéma ferment à cause de ce virus. Zoé Sfez, cartographie d'une politique culturelle au bord du gouffre.
Oui, alors au bord du gouffre, en fait, depuis hier, c'est presque absurde de faire la liste des endroits fermés, puisque du coup, ils sont quasiment tous fermés. On est aujourd'hui sur une interdiction de réunion de plus de 100 personnes. Alors, il y a eu des problématiques qui se sont posées. Est-ce que dans les cinémas, les salles sont considérées comme des lieux où est-ce qu'il faut qu'on prenne le cinéma en entier ? Donc, vraisemblablement,
non, il y a même eu un décret qui a dit que les cinémas c'était en entrée.
Mais ça a duré, je pense, 24 heures, ce doute. Il y a eu plusieurs salles, donc il y a eu plusieurs établissements touchés. D'abord Bercy, évidemment. Ensuite, des grandes salles comme, je peux vous faire une liste indicative, mais donc le Théâtre de Chaillot, Paris, l'Odéon, la Villette, le Mac de Créteil, le Bobigny, etc. Donc parmi, surtout les événements importants, les premiers à avoir effectivement annoncé qu'ils ne se tiendraient pas, il y a eu Cérémania, évidemment. Il y a eu aussi le festival Mythos à Rennes qui va avoir lieu en général le printemps de Bourges, le mois de mars étant un mois de printemps, un mois de renouveau, plusieurs grands événements comme ça qui étaient très importants qui sont annulés. Donc c'est très intéressant de comprendre un petit peu aussi comment est-ce qu'on anticipe ou pas ce qui va se passer. Il y a eu un gros débat qui a fait rage entre les journalistes et l'organisation du festival de Cannes ces 24 dernières heures, puisqu'il y a eu un article très documenté du Point qui a indiqué que selon une source du conseil d'administration du festival de Cannes, il était, je cite, il serait très difficile, pour ne pas dire impossible, de sélectionner des films venus de Chine, de Corée, d'Iran et d'Italie, sans doute d'une cinquantaine de pays, sachant que les acteurs réalisateurs ne pourront pas se déplacer. Par ailleurs, projeter des films dans une salle de 2000 places ne sera pas autorisé et la moindre alerte inquiétera les festivaliers. Donc ça, c'est ce que dit la source citée par cet article du Point. Néanmoins, Pierre Lescure, le patron du festival de Cannes,
président.
Le président, nous a démenti par Twitter l'idée d'une annulation. Il a indiqué qu'effectivement le festival envisageait potentiellement un report, puisque ce festival aura lieu en mai et que théoriquement...
Ah, du 12 au 23 mai.
12 au 23 mai. Et pour le moment, le gouvernement table sur un pic du coronavirus fin mars, début avril, et probablement une amélioration. Mais la question, évidemment, sera celle de savoir où en est le virus dans le monde. Évidemment,
sachant aussi que les sponsors Chopard, L'Oréal, Renault, pour ceux qui sont les plus connus, seraient hostiles, dit-on, de toute façon, au maintien du festival et même à son report. Ils préféreraient une année blanche. Et le report, c'est compliqué puisqu'il y a au fond, à l'automne, des dizaines de festivals, celui d'Angoulême, celui de Deauville, la Mostra de Venise, le festival de Toronto, celui de New York, de Londres, etc. Trouver une date comme ça nouvelle, c'est compliqué.
Ce qui effectivement pose la question aussi de ce qui est le plus important à Cannes, hein. Ça n'est pas uniquement le festival, c'est essentiellement le marché du film qui réunit énormément de professionnels. Et ce marché du film-là, il est évident que ça va être très très compliqué de réunir toutes ces personnes. Et sur le festival, j'ai communiqué avec pas mal de réalisateurs qui explique en fait ce festival. Il faut savoir que la plupart des films importants se préparent pour Cannes. Ils sont en montage pour Cannes. Ils ont chacun cette date butoir de mai comme délai final. Ça n'a plus d'intérêt d'avoir un festival de Cannes s'il intervient effectivement après Venise. Donc ça pourrait, s'il est trop reporté, il y aura presque plus d'intérêt pour les cinéastes à y présenter leurs films en réalité.
Alors dans la source citée par Jérôme Béglé du Point, qui laisse entendre que le festival sera de toute façon annulé, ce membre du conseil d'administration explique, et c'est intéressant, il faut en profiter peut-être pour rebondir et repenser pour partie le festival. Il faut faire plus court, moins pompeux, plus simple, ouvrir la porte aux nouveaux géants de la production. Il pense évidemment à Netflix, Apple, Amazon, etc. Profitons de ce coup dur pour nous réinventer. Si nous ne le faisons pas, on se fera doubler par un autre festival.
Effectivement. Alors, toutes ces problématiques-là sur les théâtres, là, c'est la partie, donc,
émergée de l'iceberg, parce que la partie émergée, elle est beaucoup plus lourde, puisque là, on parle de spectacles annulés, mais il y a des spectacles qui sont en préparation, des décors en construction, des tournages de films qui n'auront pas lieu. Donc, ça, non seulement ça empêche la production telle qu'on était censé la découvrir, aussi bien sur les scènes que sur les écrans, mais ça altère aussi les productions à venir, et ça va être quelque chose de très compliqué. Donc, probablement, c'est des conséquences beaucoup plus lourdes que ce qu'on peut imaginer.
Et longues sur la durée, puisqu'un festival pendant l'été se prépare souvent en avril-mai.
La programmation, on peut s'imaginer que Avignon, si potentiellement le festival a tout de même lieu, il y a une partie des répétitions qui n'ont pas lieu. Et avec ces problématiques-là, se pose effectivement la problématique pour les artistes, pour les intermittents, non seulement de ne pas travailler. Alors la question étant, est-ce que les structures vont continuer à les payer ou pas ? Pour le moment, selon les structures et leurs moyens, elles font des efforts dans certains cas. Vous allez nous parler du cas de Cérémania. Pour d'autres, c'est très compliqué, pour des petits théâtres ou pour des petits événements. Et puis avec des engagements qui étaient parfois pas nécessairement.
Et puis il faut faire ses heures.
Et la question, c'est la question de faire ses heures. Puisque comme vous le savez, les intermittents ont un statut particulier qui leur permet de jouir d'un minimum assuré quand ils ont rempli un certain nombre d'heures à une date anniversaire. Cette date anniversaire, c'est donc tous les ans, tous les 12 mois, il faut avoir fait plus de 507 heures. Je ne suis pas folle.
507 heures.
Et donc, de ce fait, il va y avoir aussi une vraie problématique sur la suite du statut des intermittents. Donc, il y a plusieurs demandes et on imagine que probablement le ministère de la Culture interviendra pour potentiellement reporter cette fameuse date anniversaire et ne pas mettre les gens dans une très grande difficulté.
S'ajoute à ça, bien sûr, une immense difficulté puisqu'on ne connaît pas la date de fin. L'expression clé de la semaine, la formule clé, c'était « et jusqu'à nouvel ordre ». Et jusqu'à nouvel ordre, on ne sait pas si c'est le 15 avril, le 1er mai, voire un petit peu plus. Avec nous, la directrice du festival Cérémania, Laurence Herzberg. Rebonsoir, madame. Alors évidemment, vous avez été l'une des premières à annoncer l'annulation de votre festival, au moment même où d'ailleurs le gouvernement n'avait pas encore abaissé le nombre de spectateurs ensemble à 500, etc. Comment on prend une telle décision ?
Bon, d'abord, c'est pas facile. Vous la prenez. Vous prenez une décision en fonction des directives gouvernementales qui sont les vôtres. Donc, on était d'abord à 5000. Après, la situation est passée à 1000. Donc, lorsque le gouvernement a décidé qu'on ne pouvait pas se réunir dans des salles comptant plus de 1000 personnes, on s'est posé la question. Nous avons, à Cérémania, nous intervenons dans 33 lieux, dont une, le Nouveau Siècle à Lille, est de plus de 1300 places. Mais ça, on aurait pu se dire, la jauge, on la descend à 1000. C'est pas ça, en fait, qui préside à l'annulation des festivals.
C'est faire venir les gens.
C'est qu'en fait, à un moment, et nous on s'en est rendu compte, les Israéliens ne pouvaient plus voyager, les Coréens ne pouvaient plus voyager, les Américains, dont on sait tout de suite qu'ils sont très, très attentifs à la santé, à tout ce qui concerne l'hygiène, ne voulaient plus voyager. Je n'avais plus de jury international, je n'avais plus non plus de jury de la presse.
Donc c'est un effet boule de neige, finalement.
C'est un effet boule de neige, c'est-à-dire que c'est comme la théorie des dominos, c'est-à-dire qu'il y en a un à un moment qui dit « ben moi je ne veux pas que mes salariés voyagent » et un deuxième qui ne plus voilà. Et à un moment donc, vous n'avez plus suffisamment de matière humaine pour rendre un festival vivant.
Même si les gens avaient réservé massivement, je crois mais plus en fait, de 30 000 tickets étaient réservés.
Mais c'est ça qui était très paradoxal, c'est que le public continuait sur les réseaux à nous dire « mais tenez, tenez, moi j'avais du vas-y Lolo sans arrêt quoi ». Enfin voilà.
Vas-y Lolo, ah, oui, Lolo vraiment. Pour Laurence, hein,
mais
c'est
oui,
ça
oui, je m'appelle Laurence, pardon. Mais en fait, le public, lui, voulait venir. Et en fait, c'était les professionnels qui, eux, peu à peu, disaient « non, ce n'est pas raisonnable, non, ce n'est pas raisonnable, je vais voyager ». Donc à un moment, ça bascule.
Mais Lolo, puisqu'on s'appelle comme ça, n'est-ce
oui,
pas
pardon.
Lolo, est-ce qu'on peut pas reporter ? Pourquoi on hésite à reporter ? Quelles sont les difficultés ?
Alors, j'ai essayé d'expliquer sur Twitter, mais alors vraiment,
en 286,
c'était pas possible,
difficile.
Donc j'ai fait une vidéo pour expliquer de manière tout à fait didactique pourquoi on ne pouvait pas reporter. Bien évidemment qu'on s'est posé la question. Mais en fait, c'est compliqué. D'abord parce qu'effectivement, on intervient, et la ville de Lille et la région nous prêtent des lieux. Enfin, on intervient chez d'autres gens. On intervient au Théâtre du Nord, au Nouveau Siècle.
Et vous travaillez main dans la main, si on peut dire, voilà. Pied à pied en ce moment, dirons-nous,
exactement.
Avec la ville et la région.
Et on savait qu'on ne pourrait pas reporter avant, et vous l'avez dit, avant le mois de septembre. Avant le mois de septembre, quand cette crise sanitaire sera vraisemblablement quand même en fin de course, tous ces lieux, et je leur souhaite, auront repris leur programmation. Après, les gens auxquels les jurys, les invités, ils auront tous aussi qui sera en tournage, qui sera en train d'écrire, qui sera en tournée, etc. On sera obligé de refaire appel à d'autres invités.
Et puis, un pays toujours en crise, parce que pour le moment, on a quand même une grosse inconnue sur ce virus. C'est est-ce qu'il va passer dans d'autres régions du monde et y mourir si c'est des régions chaudes, etc. Donc c'est pas dit, quand on est sur des événements qui, comme vous, aussi réunissent une bonne partie de la fine fleur internationale, que vous puissiez avoir, qu'une fois que l'Europe sera sortie d'affaire, et encore une fois, on sait pas quand, les autres pays qui vous intéressent le seront eux.
Oui, et puis il y avait le dernier facteur, qui est d'ailleurs un peu comme pour le cinéma. Les gens attendaient Sérimania, que ce soit les plateformes, que ce soit les chaînes, attendent Sérimania parce que toute l'attention médiatique est focalisée sur un festival comme le nôtre. Tous les médias sont là, qu'ils soient français ou étrangers. Donc ils se disent, je présente ma série à Sérimania.
Dans un plan de communication bien précis.
Mais bien sûr, qu'elle soit en communication ou pas, et d'autant plus que dans les séries, il y a tellement de séries qu'il faut faire la différence. Donc être présent dans un festival comme Sérimania, qui est le plus gros festival international, ça fait la différence. Donc, toutes les chaînes avaient des plans de sortie juste après Sérimania. Donc, si on reportait, toutes ces séries auraient été diffusées, il fallait refaire un festival, ben, c'est celui de...
Pour terminer sur cette question de l'annulation, est-ce qu'on ne peut pas essayer de transformer ce festival en ligne et est-ce que ça n'anticipe pas, au fond, de nouvelles formes qui ne vont pas remplacer un festival physique? Je crois que vous y tenez, et c'est d'ailleurs normal, et c'est la définition, finalement, d'un festival, cette promiscuité qui nous est interdite en ce moment. Mais comment vous pouvez, quelles occasions de faire un festival en ligne, vous pouvez imaginer?
Alors je me rassieds sur mon siège et là vraiment je prends un peu de manière solennelle la parole. En fait, on peut adapter une partie des festivals et vraisemblablement une partie des manifestations professionnelles, on peut les adapter et c'est ce que nous allons faire. Nous allons transformer d'ici une semaine tout ce qu'on avait prévu, enfin une partie de ce qu'on avait prévu en ligne pour les professionnels et notamment les présentations par tous les scénaristes étrangers des nouvelles séries, ce qu'on appelle dans notre jargon les pitchs, on va les faire en ligne. Pourquoi ? Parce que de toute façon, le monde de la série manque de projets. Donc si Sérimania ne présente pas les 35 projets qu'il avait repérés de par le monde, il va à un moment, voilà, tout le monde nous dit on a besoin de vos projets pour savoir ce qu'on va produire. Donc ça, on peut le faire. Mais quand même, arrêtons-nous sur ce qu'est un festival public. Un festival public, c'est une rencontre. C'est une rencontre après une projection sur un grand écran, après une présentation par une équipe, c'est une discussion, c'est des moments privilégiés entre une équipe artistique et des spectateurs.
Des gens qui sont ensemble, justement.
Des gens qui sont ensemble.
Tout ce qu'on ne peut pas faire.
En fait, transformer un festival public en ligne, ça s'appelle une plateforme vidéo. Et ça, à un moment, il faut quand même se dire qu'on a à un moment besoin d'arrêter de vivre derrière des écrans.
En tout cas, on a besoin d'autres choses aussi.
Bien sûr.
On vous retrouve tout à l'heure pour parler série télé et aussi de Sérimania, de son histoire et de cette période où les séries télé sans doute vont jouer un rôle dans la vie d'un certain nombre, enfin d'un grand nombre de Français. Emmanuel Paquette, alors on a vu au fond les perdants, si je puis dire, en tout cas des festivals annulés, des gens en difficulté, des intermittents qui vont chercher à faire leurs heures. Mais il y a aussi, étrangement, économiquement, dans cette situation inédite, notamment dans ce secteur du soft power, de l'influence française, des acteurs qui, eux, s'en sortent bien.
Oui, alors en tout cas, c'est ce que pense un fonds d'investissement américain qui s'appelle MKM et qui a créé un index. Donc c'est, en fait, c'est un panier de différentes valeurs cotées en bourse. Et il a donné un petit nom à cet index qui s'appelle le Stay at Home Index. Donc ça veut dire profitez-en quand vous êtes à la maison, quand vous restez à la maison. Et on trouve des valeurs du type Netflix, par exemple, puisqu'on se dit, tant qu'à faire, lorsqu'on est chez soi, autant regarder des séries télé. On retrouve les systèmes de visioconférence comme Zoom, par exemple, la messagerie instantanée Slack, sur laquelle on peut communiquer avec l'extérieur plus facilement.
D'entreprise, beaucoup utilisé par les entreprises.
Les entreprises, Slack. Des particuliers aussi dans la version gratuite peuvent l'utiliser. On trouve Amazon pour la livraison à domicile, soit de nourriture, soit de livres. Comme ça, on en parlera tout à l'heure avec les deux auteurs de livres. Mais à défaut d'être distribué dans des librairies, on peut faire des commandes sur Amazon.
Mais il y a aussi
on
la FNAC.
On peut aussi faire des commandes sur le site de Paris Libraire. Excusez-moi, je le dis pour ceux qui sont à Paris. Pour les indépendants qui font eux aussi de la livraison de livres pendant cette période de quarantaine. Et il est important de noter qu'on
mais ils ne sont pas dans l'index.
À ailleurs. Ils ne sont pas dans
l'index américain.
Mais d'autant, c'est une raison d'autant plus importante de les citer tout de même à l'antenne. Ça marche essentiellement dans les grandes villes.
Alors après, il y a des éditeurs de jeux vidéo, donc du type Take-Two ou Activision Blizzard. Et puis on retrouve une marque que vous connaissez très bien, puisque vous-même en êtes un grand fan, donc Domino's Pizza, pour se faire livrer directement des pizzas à la maison. Et puis, plus étrangement, le New York Times, alors pas en version papier évidemment, mais en version électronique, qui pourrait profiter de cet effet.
Au niveau des tournées et des concerts aussi, même difficultés. Alors là, ce sont les grands tourneurs, évidemment Live Nation, AEG, qui, en principe, le printemps, comme le disait Zoé Sfès tout à l'heure, c'est le moment où ils commencent à recréer leur grande tournée. Et là, ça vire au cauchemar. South by Southwest a été annulé. Le Festival Coachella est renvoyé au mois d'octobre. Les tournées de Billie Eilish, de Céline Dion, Lady Gaga sont annulées. Celles de Justin Bieber repoussées. Celles de Billy Joel, le Madison Square Garden stoppées. Il faut dire que les tournées de musique live en particulier sont désormais mondialisés, organisés des années à l'avance dans des arénas géantes et gigantesques à des prix fous, qui commencent à s'organiser en Asie, qui continuent en Amérique latine ou vice-versa. Bref, de telles annulations sont des désastres économiques. Selon un rapport de PricewaterhouseCoopers, ce marché global des concerts live était évalué et prévu pour être autour de 29 milliards de dollars pour 2020, alors que le marché de la musique, CD et streaming à la fois, n'atteint des mais plus que 22 milliards par an, on le voit, au-delà du live, c'est toute l'industrie de la musique qui risque de plonger. Et puis Emmanuel Paquette, il y a tout ce qui concerne les hôtels, les compagnies aériennes, là on est dans l'influence aussi, d'une certaine manière, de la France, avec des faillites possibles ou probables.
Oui, effectivement, puisque la France aujourd'hui, c'est quand même un des plus grands lieux touristiques pour attirer les étrangers, notamment les Chinois et les Américains. Alors il se trouve que le gouvernement estime que la perte sur les 4 mois de l'année se situera entre 6 et 10 milliards d'euros de manque à gagner pour l'ensemble de la filière, à savoir donc l'hôtellerie, les tours opérateurs et puis les compagnies aériennes aussi qui vont perdre de l'argent. Alors le plan qui devrait être mis en place, c'est non pas un remboursement pour éviter que les trésoreries soient à sec de ces acteurs, mais des bons qui puissent permettre aux gens de reporter leurs déplacements à l'étranger. Alors faut-il encore que les gens acceptent d'avoir des bons plutôt que récupérer leur argent. Donc on va voir si il y a une forme d'acceptation de la population française pour éviter la faillite à des grands acteurs. Et puis on voit des compagnies aériennes qui étaient déjà en difficulté, notamment la compagnie aérienne Flybe. Donc c'est une compagnie aérienne britannique qui était quasiment proche du dépôt de bilan en janvier, qui là court totalement à la catastrophe, puisqu'elle annule quasiment tous ses vols en direction des États-Unis par obligation, et puis une grande partie de ses vols européens. Et une autre compagnie qui était en difficulté également, qui pourrait déposer le bilan, c'est Air Norwegian, donc une compagnie qui envoyait beaucoup de gens directement aux États-Unis, qui se trouve touchée par les mesures de restriction de Donald Trump. Donc il y a un double effet pour ces compagnies aériennes. Le premier, c'est le coronavirus, pardon, et la seconde, c'est les problèmes de restriction avec la fermeture des frontières américaines. Donc c'est des compagnies qui en dépendent énormément et qui du coup se trouvent extrêmement affaiblies.
On pense aussi qu'Air France n'a que quelques mois de trésorerie. À l'Italia, ce serait pire. Lufthansa également. La compagnie spécialisée dans les vols 100% business pour les États-Unis, elle est complètement clouée au sol. Et des compagnies low cost sont également en grande difficulté. Quid des sites de rencontres? Alors c'est tout à fait autre chose, Zoé Sfès. Mais vous m'avez dit que vous avez regardé ce qui se passait du côté. Pour mener l'enquête pour l'émission Soft Power.
Précisément, d'une part, que c'est très rigolo, ça fait partie des choses qui deviennent effectivement presque becquétiennes. Ce sont les publicités ciblées sur les réseaux sociaux. Et moi, il se trouve que je suis devenue la cible sur Facebook de toute une série d'attaques pour des sites de rencontres avec des slogans de type sortez de vos écrans, faites des rencontres dans la vraie vie, ce qui prend évidemment une saveur tout à fait particulière. Mais au regard de ça, ce serait intéressant de regarder ce qu'il en est sur ces sites-là. On sait que les Français sont de grands consommateurs. Pour en revenir simplement à la question des remboursements, notamment sur tout ce qui relève de la culture, on en a beaucoup parlé. Il est aujourd'hui, même en cas de force majeure, il semblerait que les organisateurs d'événements, selon les conditions de vente que vous avez signées quand vous avez acheté des billets, que ce soit sur une plateforme, auprès d'un théâtre, théoriquement, sont quasiment dans l'obligation de vous rembourser, mais une campagne. Donc c'est important de le dire pour les gens qui seraient dans une forme d'insécurité financière. Si vous avez pris des billets pour des spectacles, pour Euro Disney, vous êtes en droit de vous faire rembourser. Néanmoins, il y a une campagne qui circule en ce moment, qui consiste à dire que si vous avez pris des places pour une petite salle de spectacle, pour une troupe que vous aimez bien, c'est un geste important et qui ne sera pas du tout anodin. de ne pas demander le remboursement de ses billets et de faire don de votre billet, même pour un spectacle que vous ne verrez pas. Ça peut, dans ce moment qu'on a décrit et qui est très complexe pour à peu près tous les acteurs de cette industrie-là et de l'art du spectacle, ça peut jouer un rôle non négligeable d'avoir comme ça quelques spectateurs qui vous soutiennent et qui vous donc font don du billet du spectacle que vous ne verrez pas.
Alors, c'est beaucoup d'autres difficultés parce que tout ça déclenche des conséquences en chaîne. Je pense par exemple tout simplement à tous ceux qui avaient commandé un certain nombre de réservations de retrait en magasin de jeux vidéo. Je pense à Animal Crossing New Horizon pour la console Nintendo Switch qui était en précommande à la Fnac pour une sortie le 20 mars. La Fnac va fermer. Comment est-ce que ces gens-là vont pouvoir récupérer ce qu'ils ont commandé? La FNAC répond à ce sujet, mais il y a tout un tas d'autres problèmes qui se posent. Pour le click and collect, par exemple, on ne sait pas encore si on basculera les réservations vers la livraison à domicile ou si le retrait en magasin sera quand même ponctuellement possible, explique-t-on à la FNAC. Donc on verra ce qui se passera dans ces domaines. (18h35) France Culture, on parle ce soir des conséquences, en l'occurrence c'était plutôt des conséquences négatives en ce qui concerne évidemment le coronavirus, mais il y a aussi tout un tas de nouveaux outils, Zoé Svez, Emmanuel Paquette, notamment pour les enfants, les étudiants, les écoliers, à savoir toutes ces plateformes d'éducation et d'enseignement en ligne qui dès demain sont déjà en place mais vont rentrer en implication puisque les élèves, les étudiants ne rentreront pas à l'école. Pour 12 millions d'élèves, ça fait quand même 18% de la population, c'est évidemment un grand changement auquel il faut ajouter les étudiants de toutes les universités, grandes écoles, écoles professionnelles, tous cloîtrés à domicile. Alors là, on a des expériences, le CNED, la classe virtuelle, tout un tas de banques de ressources, Emmanuel Paquette, Zoé Svez, sur ces sujets.
Effectivement, déjà, on vous renvoie à l'excellente émission de Louise Touré qui vient d'avoir lieu, mais effectivement, il y a le CNED, il y a eu, alors je crois que vous avez les chiffres, vous, Emmanuel, sur le nombre de connexions sur le site du CNED, je crois qu'on...
Alors, les connexions simultanées, au maximum, c'est 7 millions de connexions simultanées. Donc, encore faut-il qu'il y ait 7 millions de personnes qui se connectent au même moment.
Mais c'est important de dire qu'il y a une grande marge, parce qu'il y a eu, je crois, près de 300 000 inscriptions en un week-end seulement. Mais, vous dire, le site du CNED n'est pas frais de la surchauffe. C'est l'heure de gloire du CNED.
Exactement. Alors après, nous, on a entendu dire que les opérateurs télécoms avaient été aussi plus ou moins convoqués. Pour être certain que les Netflix ou YouTube ne prennent pas l'ensemble de la bande passante au détriment des cours en ligne. Et donc, on ne sait pas encore s'il va y avoir une forme de priorisation des flux Internet chez les opérateurs télécoms à destination de ces plateformes éducatives par rapport au divertissement. Parce qu'encore une fois, les enfants ne sont pas en vacances, ils sont à l'école, chez eux. Donc, j'ai dû le répéter à plusieurs reprises. Donc c'est pour ça que
votre propre fils,
exactement.
C'est ça
donc, on
peut Il n'avait pas bien compris, c'est ça?
Il n'avait pas compris, je ne suis pas certain qu'il ait toujours compris. Mais il y a aussi la plateforme École Directe pour les collégiens et les lycéens. Donc là, si les professeurs et les maîtres d'école se connectent, ils peuvent mettre en place des cours à distance, commencer à mettre en ligne aussi des programmes qui commencent à partir donc de demain, pour certains aujourd'hui, en l'occurrence pour mon fils c'était aujourd'hui. Donc les enfants peuvent commencer à travailler dès maintenant. Encore faut-il une forme d'assiduité, donc de la part des enfants et des parents, puisqu'à ce moment-là, quand on est à la maison, vaut mieux que les parents aident aussi les enfants à se connecter et contrôlent les devoirs et les leçons qui doivent être apprises en ligne. Donc il y a quand même tout un arsenal, à savoir quand même qu'il y a aussi des questions qui se posent pour les enfants qui ne sont pas équipés en termes d'ordinateur. Ça serait quasiment 5% aujourd'hui des Français qui n'auraient pas d'ordinateur pour pouvoir se connecter à ces plateformes. Donc il y a toujours la possibilité de récupérer les cours sous forme papier dans les écoles ou de se faire prêter des tablettes et ordinateurs auprès des établissements. Donc il y a des moyens de substitution qui existent, mais encore faut-il qu'ils soient connus et que les personnes puissent se tourner vers les établissements pour s'équiper.
Classe virtuelle, banque de ressources pour l'école, je pense à la BRNE, les ressources de la plateforme Étincel, ça s'écrit Étincel mais sans le LE à la fin, les ressources d'EduTech et puis donc Ma Classe à la Maison, c'est le dispositif du CNED.
À quoi on peut ajouter les fondamentaux du réseau Canopée qui sont tous des contenus sur le français et les mathématiques, Maxi Cours qui donne accès gratuitement à l'ensemble de ses cours du lundi au vendredi de 9h à 17h exceptionnellement pendant cette épidémie, Sondo qui ouvre aussi sa bibliothèque avec tous ses contenus exclusif et exclusif. et bibliomanuel, mon e-espace éducation, ça c'est Hachette, c'est tous les livres scolaires qui mettent tout leur contenu, donc on l'a dit, en accès libre. Je vous conseille vivement une liste collaborative qui est sur le site de tailming.com, on vous mettra le lien bien sûr sur le site de l'émission, qui recense à peu près tout ce qu'on peut faire avec des enfants. Il y a notamment effectivement, et il faut les noter, d'excellents podcasts qui existent aujourd'hui pour les enfants, donc que ce soit pour travailler, pour écouter des histoires. Évidemment, il y a un très bon contenu sur Radio France, notamment produit par France Inter, mais pas que. Et il y a toute une foule d'exercices ludiques et de sites pour essayer de, au moins, si on ne reste pas sur le dur du programme, être un peu dans le jeu. Ça va de logiciels éducatifs, Ortolude, Epopia, Plume, Dipongo, Oliol, etc. On vous mettra cette liste en lien sur le site de Softpower.
Voilà, pour terminer cette séquence d'actualité, puisqu'on a parlé rapidement de cinéma la semaine dernière, nous vous recommandions d'ailleurs un film dans cette émission. C'était à l'époque où on pouvait encore aller voir des films. Le film en question s'appelle Dark Waters, c'est une fiction américaine sur la pollution de l'environnement et la contamination des hommes autour de l'entreprise chimique américaine DuPont qui fabrique le Teflon. Film qu'on continue à vous recommander, bien qu'il soit difficile désormais de le voir en salle. L'entreprise française Tefal de Lyon, qui appartient au groupe Seb, nous a écrit pour nous dire avec insistance que le Teflon dont parle le film, un polymère utilisé par la fabrication de revêtements anti-adhésifs, n'a aucun rapport avec le Tefal et les poils Tefal du même nom. Tefal est made in France, ajoute l'entreprise, je cite, « Tous nos produits culinaires sont fabriqués en France, où nous produisons chaque année plus de 45 millions de poils. Nos produits ont tous les certificats d'innocuité et de conformité. Les tests sont effectués régulièrement par des laboratoires indépendants. » Fin de citation. L'entreprise Tefal garantit que le Teflon, je cite encore, n'est pas utilisé pour ses articles culinaires, même si, en effet, le marché est en train d'évoluer, avec de plus en plus de poils en céramique, notamment, dont Tact, et avec nos excuses pour cette confusion. À suivre, dans Soft Power, on parle de séries télé, des plumes des hommes politiques et de Mr. K pour Kretinsky, ce nouveau patron de presse qui investit massivement en France. Mais juste avant, et pour clore vraiment cette fois cette séquence d'actualité de la semaine, musique dans Soft Power, alors que la France suit la même trajectoire que l'Italie sur le Covid-19, avec disons 10 jours de retard, les Italiens réinventent leur quotidien confiné. Vie en suspense donc, mais nouveaux codes aussi et nouveaux rendez-vous, comme cette joyeuse rencontre tous les soirs à 18h aux fenêtres et aux balcons des immeubles et des villes. Ici, un hymne national repris par la foule, là des chants lyriques entonné au rythme des musiciens qui s'improvisent, en hommage à cette ville qui se réinvente, à cette vie qui se réinvente chez nos voisins transalpins. On écoute la voix d'Ornella Vanoni qui masque ce silence flottant dans les rues et les places vides d'Italie et bientôt de France.
È inutile tentare di dimenticare. Per molto tempo ancora nella vita dovrai cercare dettagli così piccoli che tu non sei ancora pronto per capire, ma che comunque contano per dire chi siamo noi. Se vedi un'altra donna camminare nella tua via e ti ricordi quando c'ero io, la colpa è sua. Il ritmo bilanciato del suo passo sono ritagli di dettagli, se no perché ti sta immediatamente ricordando proprio di me. Io so che un'altra donna sta inventando una frase fatta di parole come quelle che ho già detto, mi sembra matta. Credo che ti voglia così tanto bene, errori di grammatica lei non ne fa, che senza errori non si ha mai felicità.
France Culture, 18h43.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Soft Power sur France Culture en direct. Nous sommes avec Emmanuel Paquet de l'Express, Zoé Sfès de France Culture, Laurence Herzberg, directrice du festival Sérimania. On parlera de Sérimania et de séries télévisées tout à l'heure dans cette émission. Michael Moreau viendra dans un instant nous parler de son livre Les Plumes du Pouvoir. Mais juste tout de suite avec nous, Jérôme Le Filiatre, journaliste à Libération. Bonsoir monsieur. Vous publiez Mister K. K pour Daniel Kretinsky. Milliardaire tchèque qui a investi tout à coup, qui est devenu un personnage important dans la presse française, d'abord avec Marianne, une entrée au capital fort remarquée dans le groupe Le Monde, qui concerne notamment Le Monde, mais aussi Nouvel Obs, Télérama et d'autres, L'Obs, etc. Votre livre publié au Seuil cette semaine s'appelle Mister K, Petites et grandes affaires de Daniel Kretinsky. Qu'est-ce qui vous a motivé, mobilisé à enquêter sur cet homme dont Le Monde d'ailleurs s'est beaucoup occupé puisqu'ils avaient publié plusieurs portraits de lui?
Ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai trouvé étrange, comme beaucoup de gens, qu'un inconnu dont on n'avait jamais entendu parler début 2018, tout d'un coup, arrive en France, investisse en l'espace d'une semaine dans plusieurs entreprises françaises. Donc vous avez cité l'hebdomadaire Marianne, mais il y a aussi les anciens magazines du groupe Lagardère, parmi lesquels Elle, par exemple. Il a acheté aussi des radios au groupe Lagardère, des radios qui étaient en Europe de l'Est. Puis quelques mois plus tard, le groupe Le Monde. Et il me semblait qu'il y avait dans cette succession d'opérations comme une sorte d'offensive qui avait sans doute un sens et une direction et un objectif. Donc j'ai voulu creuser cet objectif. C'était d'autant plus intéressant que le personnage en soi était mystérieux et je crois en plus qu'il concentre un petit peu toutes les grandes peurs contemporaines.
Presque toutes, parce qu'on lui reproche pas les virus. Le coronavirus, oui. Encore.
Parce qu'effectivement, il a fait fortune dans l'énergie, en particulier dans le charbon. Donc on est dans l'écologie, la destruction de la planète. Il vient d'un espace post-soviétique, souvent qu'on
avec des liens potentiels avec Poutine et la URSS.
Voilà, donc on est dans le registre de la manipulation de l'information, autre grande peur contemporaine. On est aussi dans le déclin de l'Europe occidentale. Et donc il y avait toute une série de...
Est-ce que c'est un livre à charge? Si on prend les titres, notamment il rentre au Monde, je vous cite, et c'est un titre de chapitre par effraction. Un autre titre, c'est Raid sur la presse française. D'ailleurs, un formidable chapitre, chapitre 4 qui se concentre sur la presse française. C'est un livre à charge ou vous avez essayé?
Je crois pas. En tout cas, j'ai essayé de faire un livre honnête et équilibré. C'est pas à moi de dire si c'est réussi. C'est à vous, les lecteurs. Mais non, moi, je pense pas que ce soit un livre à charge, tout simplement parce que c'est un personnage complexe. La réalité est complexe, les gens le sont aussi. Et chez lui, il y a une forme de sincérité, je pense, quand il défend la presse, le journalisme, la démocratie. Mais c'est une sincérité qu'il faut aussi relativiser, mettre balancer par les faits, la façon dont il se comporte dans ses propres journaux, dans ses médias, et puis mettre son discours sur la planète, sur l'écologie, sur l'énergie. Il faut interroger tout ça.
Emmanuel Paquet.
Oui, parce que vous commencez en fait dans votre livre assez vite à dire qu'il a été très mal accueilli en France. Enfin, lui-même l'a très mal vécu. Du coup, aujourd'hui, il s'est beaucoup renfermé. Il ne voit quasiment pas de journalistes. Et là, il vous a ouvert les portes à plusieurs reprises. Vous l'avez vu longuement, plusieurs heures durant pour le livre. Comment vous comprenez ce changement d'attitude? Parce que quand il est arrivé à France, on l'appelait même Daniel Kretinsky. Donc, pour dire à quel point il était snobé par l'ensemble de l'intelligentsia française. Et là, maintenant, on l'appelle Monsieur Kretinsky. Donc, on a un peu changé de terme à son encontre. Comment vous percevez aussi le fait que d'un coup il est accepté de vous parler alors que pour l'instant il était un peu sorti des radars?
Ça n'a pas été si simple de le rencontrer, de le convaincre de me rencontrer à Prague notamment. J'y suis allé plusieurs fois. Je crois je lui ai pas laissé le choix. Parce que je lui ai dit à son entourage puis à lui directement, écoutez, je vais écrire un livre sur vous. J'enquête, je rencontre des gens. À vous de voir si vous voulez me recevoir ou pas. mais sachez que le livre...
Le livre va être très très méchant, mais si vous ne me voyez pas, ça sera encore plus méchant.
Le livre sera plus publié. Est-ce que vous voulez raconter votre point de vue ? Et je pense que c'est intéressant de l'entendre aussi sur pourquoi il investit dans le groupe Le Monde, pourquoi il s'intéresse au charbon, qu'il investit encore dans le charbon, dans l'énergie du charbon. Donc je ne vais pas laisser le choix, et à partir de là, lui, ce qu'il dit, hein, je répète ses mots, je préférerais que vous n'écriviez pas de livre sur moi, mais puisque vous avez décidé de le faire, je préfère participer. Je pense qu'il a pas envie qu'on le caricature à nouveau, comme ça a pu être fait quand il est arrivé en France, en oligarque lié à Poutine, ce qui, à mon avis, est faux, et comme l'empereur du charbon, puisqu'il a aussi...
Ce qui, à votre avis, est vrai.
Ce qui, à mon avis, il continue d'investir dans le charbon, et il l'a fait encore le mois dernier, il a acheté une centrale en Allemagne. Mais ça doit être relativisé par aussi d'autres mouvements qu'il fait, notamment il investit dans les énergies nouvelles. Donc ceux qui pensent que Kretinsky disparaîtra avec la fin du charbon se trompent. Il sera là encore pour plusieurs années.
Oui, effectivement, parce que vous démontez assez vite la thèse qui a circulé pendant un moment en France, hein, que ça serait un fauné russe, puisque forcément il travaille avec les autorités russes, notamment pour ramener le gaz qui part de Russie et dans lequel il alimente différents pays de l'Est, qui aujourd'hui, la vache à lait, hein, si je me souviens bien dans votre livre, de son groupe. Du coup, le charbon, lui-même le dit, est quasiment minoritaire dans l'activité en termes de rentabilité. Mm-hmm. Vous dites, en chiffre d'affaires, le charbon est majoritaire. Mm-hmm. En rentabilité, c'est le gaz. Donc, on peut dire qu'il est tenu d'une certaine façon par le pouvoir. Et vous tenter de démêler en fait le fantasme de la réalité. Et à la fin, votre conviction, qui est celle aussi de Daniel Kretinsky, c'est de dire je me suis fait seul, ou en tout cas avec des hommes d'affaires tchèques, mais pas avec la Russie.
Non. Alors je pense qu'effectivement l'aspect suppôt de Poutine ne tient pas. À la lumière des faits qu'on a, si on les empile les uns après les autres. Moi, j'ai enquêté, évidemment, longuement, des mois et des mois sur cette question.
Vous avez même vu la note blanche qui circule au niveau du gouvernement français.
Voilà, il y a une note blanche qui a été produite par les services.
Et bravo, parce que tout le monde est couru pour avoir cette note depuis longtemps. Donc.
Et effectivement, elle n'est pas...
On voit ce qu'un journaliste de concluant. Libération par rapport à un journaliste de l'Express.
J'enlève le bravo, alors.
effectivement, oui, je crois que ça ne tient pas, parce qu'il y a énormément de faits qui contredisent cette interprétation, notamment le fait qu'en ce moment, la Russie est en train d'essayer de faire un autre gazoduc qui passe par la mer du Nord pour livrer l'Allemagne. Et ça directement, ça enlève du business à l'entreprise de Daniel Kretinsky, parce que lui, il a une partie du gazoduc qui passe par la Slovaquie et qui livre le gaz russe vers l'Europe. Donc,
il y a beaucoup de
fait, ça ne marche pas, ça lui enlève du chiffre d'affaires.
Il y a beaucoup de révélations, en tout cas d'informations dans ce livre touffu, enfin parce que c'est un dossier complexe. Le rôle d'ailleurs de Denis Oliven est très intéressant, ancien responsable du groupe média Lagardère et aujourd'hui. Lui joue un rôle à la fois pour la vente de ces journaux, mais aussi pour son rapport avec Daniel Kretinsky. Quelles sont les principales, selon vous, révélations de votre livre ?
Alors, je crois que les principales révélations, si on les résume, il y a d'une part le fait que on a des chiffres sur la fortune exacte de Daniel Kretinsky. C'est des chiffres qui n'ont jamais été publiés. Il a 2,4 milliards d'euros de liquidités prêtes à être investies dans son holding personnel au Luxembourg. Il a beaucoup d'argent. Donc, parce que effectivement, il y a ce gazoduc qui lui rapporte 600 millions d'euros par an de cash. C'est énorme. Et en plus, c'est des contrats de long terme, donc il sait qu'il aura jusqu'en 2028-2030 ces liquidités qui vont tomber. Donc il a beaucoup d'argent à investir et il cherche où l'investir. Et je crois que ça, c'est une des autres révélations du livre, c'est qu'il prospecte partout. Ce que je raconte notamment, c'est que au mois de octobre 2019, Daniel Kretinsky est allé voir Martin Bouygues pour lui dire « Bonjour, je suis le milliardaire tchèque dont vous avez entendu parler et je voudrais investir dans le groupe TF1. » D'ailleurs, j'ai déjà commencé à le faire. J'ai déjà acheté des actions sur le marché et je voudrais prendre 10% de TF1. Est-ce que vous êtes avec moi ou contre moi ? Donc là, Martin Bouygues lui dit « Comment ça ? Pourquoi ?» Je ne sais pas trop quoi lui répondre. Et finalement, lui dit « Écoutez, non, je pense que c'est pas une bonne idée que vous investissiez dans TF1, parce que tant que vous êtes dans le monde, on va associer en France ces deux entreprises, on va croire que je suis derrière votre tentative de prise de contrôle du monde. » Donc finalement, Kretinsky se retient et dit « Ok, je fais pas TF1. » Par ailleurs, il parle aussi dans le livre de ses ambitions dans l'énergie, qui, je pense, sont vraiment, c'est vraiment son objectif. C'est-à-dire que lui, c'est son truc, l'énergie. Et s'il a investi dans la presse française, je pense que c'est parce que il a des ambitions très très grandes dans ce domaine-là. Il sait que le marché va exploser, le marché de l'énergie français va exploser. Entre Total, EDF, Engie, ça va pas rester comme ça. Il va se passer des trucs. Autour d'EDF, notamment, on parle d'une scission des activités. Engie, on parle d'un démantèlement. Il s'est positionné, il est arrivé en France parce qu'il attend ça. Il attend de récupérer des bouts d'EDF, des bouts d'Engie, de faire des deals avec Total, ce qu'il a déjà fait déjà en rachetant des centrales à charbon en France et en cédant des centrales à gaz à Total en France. Il se positionne dans cette perspective. D'ailleurs, je pense que son investissement dans la presse doit être compris à la, compris à la lumière de ce qui s'est passé en 2016. En 2016, Kretinsky, il va voir le gouvernement français, des membres de cabinet à Bercy, et leur dit, c'est un moment où EDF a besoin de beaucoup d'argent, et au bord du gouffre, il leur dit, moi je voudrais investir dans EDF. Et là, on l'écoute, poliment, mais rapidement on les conduit, pour lui dire, écoutez, on vous connaît pas, on veut pas que vous arriviez dans EDF. Derrière, voyant qu'il a pas les réseaux, il investit dans la presse.
Juste, il y a eu un précédent quand même dans la presse française. Il y a eu Alexandre Pougatchev, un russe, qui a racheté François en 2009. On sait très bien que c'était pas pour la presse, c'était vraisemblablement pour des contrats d'armement qu'il essayait d'avoir lien direct.
Ça n'a pas duré très longtemps.
Voilà, il est resté 4 ans et il est reparti. La question est de savoir, est-ce qu'en fait, Kretinsky ne serait pas le nouveau Pougatchev de cette décennie?
Moi, je crois pas, parce que je l'ai rencontré, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, et j'ai senti une personnalité intelligente, extrêmement déterminée, extrêmement ambitieuse. J'étais pas sûr, la première fois que je l'ai rencontré, de faire le livre, encore. J'étais en pleine enquête et je me demandais si c'était intéressant, vraiment, ce sujet. Je suis ressorti de mon premier rendez-vous avec lui au mois de septembre 2019, avec la certitude de faire le livre, parce que je me suis dit, cet homme, jeune, 44 ans aujourd'hui, dans 10 ans, il sera un personnage majeur des affaires européennes, du capitalisme européen. Lui, à mon avis, a l'ambition d'être un Bernard Arnault bis. Il a en plus ce côté de petit pays peu peuplé qui a envie de manger le monde. Espèce de revanche historique du Tchèque qui a envie de s'imposer comme une figure centrale du business européen.
Je vous propose justement de l'écouter.
Je n'investis pas, ou nous n'investissons pas dans la presse, ni en République tchèque, ni en France, avec l'idée de nécessairement gagner de l'argent. L'idée, c'est que nous avons créé une fortune très importante par nos opérations énergétiques et autres, qui nous donne une opportunité de faire quelque chose qui nous pensons être tout simplement bien, positif et une contribution à la société.
Donc une démarche citoyenne, quelque part.
Oui, et c'était justement une décision complètement citoyenne, et je suis tout simplement convaincu que la presse est absolument fondamentale aujourd'hui pour protéger les grandes valeurs de notre société, pour protéger la démocratie libérale en Europe.
Donc finalement, c'est une...
C'est une lutte contre le populisme. Après, je me suis dit qu'il y a que peut-être l'idée d'investir en France, dans la presse, est une idée qui est bonne pour une certaine combinaison. D'abord, une partie très importante de débats futurs qui vont influencer la presse n'est pas un débat qui se passe au niveau d'un pays, mais c'est qui se passe au niveau européen. Vraiment, il nous faut une régulation de GAFA beaucoup plus juste. Cette lutte ne peut pas se mener à partir d'un pays qui est petit. Il faut vraiment une coopération internationale. Et pour moi, intuitivement, le premier partenaire, pour des raisons émotionnelles et aussi partiellement pratiques, c'est la France.
À l'instant, Daniel Kretinsky, lors l'une des rares interviews qu'il a accordées, c'était sur Canal+, en novembre 2018. Son français est remarquable.
Remarquable. Il parle très très bien le français. Il a fait un semestre d'études à Dijon, à l'université de Dijon.
Et lui, ça lui suffit pour parler bien français ?
Alors, il l'a appris à l'école avant, mais effectivement, il a passé 6 mois en France à un âge où on apprend vite les langues.
Une dernière question, Emmanuel Paquette.
Oui, dernière chose, parce que c'est vrai que dans votre ouvrage, qui est très documenté sur comment il a fait fortune en République tchèque, on voit qu'il est entouré quand même de personnages très sulfureux. Patrick Tak, avec qui il a toujours des liens. Son beau-père, si on peut dire ça, même s'il n'est pas marié avec la fille, mais Peter Kellner, qui est la plus grande fortune tchèque, très liée avec les intérêts russes, avec un début de fortune qui s'est fait en fait sur quasiment, on pourrait dire, des malversations ou des pots de vin. Enfin, tout ça sent pas très très bon quand même. Et lui semble être en gros le monsieur propre face à tous ses amis et tous ces milliardaires autour de lui qui l'ont poussé. Est-ce qu'il n'y a pas un côté quand même derrière Kretinsky, l'image lisse et sympa de la Tchéquie et de la réussite, mais faite derrière avec, poussée derrière par des gens qui le sont beaucoup moins, pour le coup.
Il est certain, c'est vrai que je retrace le parcours, la façon dont il a fait fortune, il est certain qu'il a bénéficié d'argent post-soviétique, notamment parce qu'il a été mis le pied à l'étrier par les deux hommes dont vous avez parlé, Petr Kellner et Patrick Tkach, qui ont fait fortune dans les années 90 au moment des privatisations sauvages, au moment des dénationalisations en République tchèque. Et qu'il a également des alliés politiques, notamment Mirek Topolánek, l'ancien premier ministre tchèque, sans lesquels, tous ces gens-là, sans eux, il n'aurait jamais fait fortune. Effectivement, lui, c'est le visage avenant, sympathique, d'un système oligarchique. Quand même, il faut aussi la relativiser, parce que c'est aussi une information que je révèle dans le livre, c'est en mai 2019, il y a un peu moins d'un an, il était au tribunal, Daniel Kretinsky, dans une affaire de corruption, il était entendu comme témoin. L'ancienne femme du premier ministre, enfin la femme de l'ancien premier ministre tchèque, qui s'appelle Jana Nečasová, qui passait pour des faits très lourds, corruption, fraude fiscale, etc. Daniel Kretinsky a été appelé comme témoin parce qu'il lui a offert des colliers de luxe. Deux colliers Cartier.
Vous donnez le prix d'ailleurs.
Dont je donne le prix, autour de 20 000 euros. À un moment, il lui a donné ces colliers pour, selon certains journalistes tchèques, la remercier d'une intervention décisive qu'elle aurait pu avoir pour justement mettre la main sur le gazoduc russe dont on a parlé au début de cet entretien.
Merci infiniment Jérôme Le Filiatre. Vous êtes journaliste à Libération, auteur de Mr. K, Petites et grandes affaires de Daniel Kretinsky, un livre qui paraît au seuil. Merci d'être venu le présenter ce soir dans cette émission. Il est 19h précisément sur France Culture. Au sommaire, jusqu'à 19h45, nous parlons des plumes des présidents de la République. C'est un autre livre signé Michaël Moreau, qui paraît aux éditions Plon. Et puis Laurence Herzberg, la directrice du festival Sérimania, pour parler ce soir de séries télévisées. Cette émission est un peu plus longue que d'habitude, jusqu'à 19h45, puisqu'à cette heure-là, une soirée électorale spéciale commencera jusqu'à 22h. Elle sera animée ce soir par Stéphane Robert et Hervé Gardette. Voilà pour le programme de la deuxième heure de Soft Power ce soir. Émission jusqu'à 19h45 donc, que vous pouvez également retrouver régulièrement en podcast pour suivre l'actualité des industries créatives, du numérique et des médias. Ce podcast est disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone.
Non mais c'est pas bon, on l'avait déjà coupé dans l'ancienne version, pourquoi c'est revenu dans la nouvelle?
Oui, sauf que la nouvelle est déjà devenue ancienne. On a remis dans la nouvelle les paragraphes qui étaient dans l'ancienne.
Tiens, regarde, j'ai fait une synthèse de la deuxième partie sur les inspecteurs de l'ONU.
Mais comment ça, l'ancienne première? Mais je croyais que c'était toi, Caillou, qui devais la réécrire.
Non, moi je fais la conclusion de la troisième partie.
Non, faut le garder, parce que si tu coupes ça, après tu peux pas enchaîner.
Attendez là, je trouve deux fois le même paragraphe là et là.
Deux fois seulement, t'as de la chance.
Il y a un débile qui a collé Ramon et l'abricot dans le passage sur les religions osdéménites.
Et alors c'est quoi cette histoire-là? La France, vieux pays? Attendez, on se tire une balle dans le pied, là. Au secours.
Non, mais ça, vous le retirez pas, il y tient absolument.
Lâchez pas.
Oui, genre c'est quelque chose qui y tient. Non, mais ce passage, on lui laissera arbitrer à la fin, quand on ira déjà tout le reste. Bon, allez, la suite. Et donc, on se concentre, s'il vous plaît.
Mais comment est-ce qu'il faut qu'on vous le dise? En morse? En sémaphore, en araméen? C'est pas un discours que je veux, c'est du vol d'oiseau direct. Pas de phrases, vous faites des phrases. Pas de lyrisme. Des mots, des principes, des faits. On parle devant le Conseil de sécurité. On parle au monde.
À l'instant, un extrait de Quai d'Orsay, le film Bertrand Tavernier avec Thierry Lhermitte, dans le rôle d'ailleurs de Dominique de Villepin, qui raconte le travail de plume dans un cabinet ministériel, film fascinant. Pour illustrer ce livre que vous publiez cette semaine, Michaël Moreau, Les plumes du pouvoir, c'est un livre édité chez Plon, un livre assez dense, assez volumineux, qui traite au fond des discours des présidents de la République, depuis le général de Gaulle jusqu'à aujourd'hui, de manière inversée, puisque vous commencez avec Emmanuel Macron. Macron. Vous vous intéressez à leur discours, mais aussi donc à ceux qui les fabriquent, aux erreurs, aux plagiats, aux grands discours et aussi aux petits faits qui les accompagnent. Mais avant de rentrer dans les détails, j'aimerais savoir pourquoi vous vous êtes intéressé à ce sujet. Qu'est-ce qui vous a... Vous avez fait auparavant des livres sur la communication.
C'est un sujet un petit peu lié, parce qu'effectivement, il y a le choix des mots, le choix de la prise de parole. Après, je me suis énormément... En fait, j'ai voulu faire ce livre après avoir vu beaucoup de revisionner beaucoup d'archivina. J'aime beaucoup regarder...
les grands discours, donc.
Les grands discours. Ou des discours plus méconnus, de meetings, etc. Puisque les images existent, et du coup, j'ai voulu essayer de savoir comment ça s'était passé derrière.
Alors commençons par la fin, mais qui est le début de votre livre, à savoir Emmanuel Macron. Plusieurs plumes apparaissent, Sylvain Faure, aujourd'hui Jonathan Guémas, mais d'autres acteurs interviennent. Vous en citez beaucoup, je pense à Ismaël Emelian, bien sûr, mais on peut en
Clément
citer
Beaune, qui doit être très présent, puisque c'est le conseiller Europe, donc qui doit être...
Ça veut dire que c'est un métier, il y a plusieurs plumes, il n'y a qu'une plume. Comment ça marche,
en fait,
général?
En général, il y a quand même une plume officielle. Donc, au début du quinquennat, c'était Sylvain Faure, qui a été remplacé par Jonathan Guémas, qui est l'ancienne plume de Gérard Collomb.
Ministre de l'Intérieur. Hein.
Voilà, exactement. C'est un normalien. Il y a en fait deux...
Il y a beaucoup de normaliens. Au fond, c'est des normaliens qui savent écrire.
C'est le fameux fantasme du normalien sachant écrire.
Jeune. Moins jeune après. Très jeune. Temps, quand même.
Je veux dire. Exactement, ils sont tous très très jeunes là dans l'entourage, notamment d'Emmanuel Macron.
Et comment ça marche chez Macron ?
Alors chez Macron, il y a deux plumes principales, effectivement. La principale, Jonathan Guémas, il y a aussi une autre personnalité qui fait beaucoup de discours, qui s'appelle Sophie Vallon, qui était déjà là dès le début, qui fait aussi beaucoup de discours sur la mémoire ou sur les décorations, puisqu'il y a énormément de discours chaque mois à la présidence de la République.
Déjà au départ, il faut expliquer ça, c'est qu'un président de la République, ça parle entre guillemets ça deux trois fois par jour, et donc énormément. Il peut pas lui-même tout préparer, il lui faut donc des plumes.
Voilà, puisqu'il y a les discours très visibles, les énormes longs discours, mais il y a aussi toutes les décorations qu'on ne voit pas, qu'on n'aperçoit pas, la moindre petite intervention, les allocutions télévisées, c'est préparé aussi évidemment avec l'aide de plumes, et interviennent aussi également des conseillers techniques en fonction des sujets.
Qui souvent préparent au fond font un premier...
Le fond du dossier, voilà, exactement, mais aussi les responsables de la cellule diplomatique écrivent beaucoup...
Qui font des trames, disons, qui sont reprises et mises en forme par la plume, qui n'a pas forcément la connaissance et la compétence technique sur le dossier.
Avec parfois même des dissensions. On l'a vu notamment sous Nicolas Sarkozy, il y avait des dissensions entre Henri Guénaud, la plume principale, et Jean-David Lévite, le conseiller diplomatique. Il y a eu même des clashs, ça a commencé par Dakar.
Alors ce qui est passionnant dans le livre, c'est qu'on constate non seulement qu'il y a des plumes officielles, des plumes techniques, mais il y a aussi des individus extérieurs, des grands écrivains, en l'occurrence Philippe Besson, François Sureau, le grand rabbin de France, Haïm Korsia, mais aussi Daniel Cohn-Bendit, qui vont être mobilisés par Emmanuel Macron pour être au fond des plumes supplémentaires.
Souvent pour relire la copie ou parfois pour donner des idées. Par exemple, François Sureau, il donne des idées par WhatsApp directement au président de la République, y compris, alors parfois les idées ne sont pas reprises. Par exemple, sur le discours, le fameux discours sur dommage à Johnny Hallyday, François Sureau avait envoyé par WhatsApp des propositions. Il voulait comparer Johnny au général Bijard et Emmanuel Macron...
n'a pas trouvé ça très bien. Ça va pas être possible.
Sur Notre-Dame aussi, il a pu apporter des choses.
Mais alors parfois, il y a aussi des discours qui n'existent pas, qu'on prépare et qui ne seront jamais lus.
Des discours, c'est ça. Soit parce que l'événement n'a pas lieu. Par exemple, François Fillon avait, pendant la campagne présidentielle de 2007, fait écrire par sa plume Igor Mitrofanov un discours de « Je me retire de la campagne présidentielle ».
Finalement, il ne se retire pas.
Évidemment, a été ensuite jeté à la poubelle.
Je croyais que c'était le discours « Merci de m'avoir élu » ou des choses comme ça. Non, c'est pas arrivé non plus.
Non, c'est...
Alors, si on remonte un peu dans le temps, et là, pour le coup, vous commencez avec le général de Gaulle. Au fond, le général de Gaulle, c'est... Il n'y a pas de plume, mais il y a quand même des trames. On pensait que le général écrivait tout seul. C'est pas totalement vrai.
Alors déjà, il y a une grosse différence par rapport à aujourd'hui, c'est que l'agenda du président de la République est moins plein qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas à l'époque tous ces grands sommets, ou moins de sommets internationaux, Conseil européen, sommet européen, etc. Donc il se réservait des plages, même des matinées entières pour travailler, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Emmanuel Macron n'a pas de plage pour préparer les discours, mais il avait quand même des trames, des aides. J'ai rencontré par exemple un de ses anciens membres de cabinet qui s'appelle François Bujon de l'Étang, qui était à la cellule diplomatique.
Il est devenu ambassadeur par la suite.
Exactement,
aux États-Unis,
notamment au moment du 11 septembre.
À New York, à Washington.
Voilà, exactement. Et lui raconte qu'il y avait vraiment que pour chaque discours, il y avait des propositions écrites avec l'aide même des ambassades respectives, mais qu'après, le général de Gaulle reprenait ces discours et les réécrivait entièrement. Les discours revenaient tout raturés comme des manuscrits de Flaubert, avec son encre violette, tout était entièrement.
Puis à l'époque, il fallait retaper à la machine, etc., ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Il y avait des sténos en plus des plumes, en plus.
Vous parlez un peu de Georges Pompidou, quasiment pas de Giscard, et puis hop, on passe à Mitterrand et à Jacques Chirac, comme si Giscard d'ailleurs n'avait pas été président de la République dans votre livre. Il est absent. Alors là, Mitterrand-Chirac, c'est des grandes plumes, des grands écrivains. Je pense à Éric Orsenna, mais aussi un peu Régis Debray.
Sous
Jacques Chirac, ce sera Christine Albanel.
Oui. Oui, alors, je parle quand même un petit peu déjà de Giscard, parce que j'ai vu notamment avant sa mort, Jean Cérisé, qui est décédé à 99 ans et qui avait beaucoup travaillé pour Valéry Giscard d'Estaing. Après, les années Mitterrand et Chirac, c'est des années où il y a deux choses. Il y a à la fois des immenses discours internationaux. On l'a vu notamment avec François Mitterrand, où il y a le discours de la Knesset, il y a le discours du Bundestag. Et il y a aussi des discours qui apparaissent de plus en plus sur les questions liées à la mémoire. C'est ces années-là où vraiment ça commence à se développer. Et sous Jacques Chirac, il y aura notamment le discours du Veldiv en 1995, qui est un discours aussi intéressant parce que écrit par Christine Albanel, et c'est l'un des très rares discours qui s'est fait vraiment sans relecture autre que Christine Albanel, puisque Jacques Chirac avait une méthode très particulière à l'Élysée, qui était de relecture de ses discours.
Le dimanche après-midi,
puis il s'ennuyait le week-end, donc il convoquait tout le monde. Lui, en général, il était en vieux sweatshirt. C'était épouvantable pour tout le monde, parce que ça durait des plombes. C'était surtout épouvantable pour la plume qui avait écrit le discours, notamment
qui avait tout à refaire,
Christine Albanel.
Ouais. Et puis après, Jacques il lisait Chirac ce qu'on lui avait.
Il lisait à voix haute son discours, et tout le monde pinaillait sur la moindre virgule. Dominique de Villepin avait une idée par-ci, par-là, qui met en colère parfois Christine Albanel. Et le discours du Veldiv, il n'est pas passé par cette méthode-là, puisque Christine Albanel raconte que ce discours était prévu finalement presque comme protocolaire, n'était pas prévu comme un discours important. Et du coup, c'est l'un des quasi le seul discours qu'elle a vraiment relu avec Jacques Chirac en tête-à-tête dans le bureau du président.
Une question justement, qu'est-ce que l'évolution de ces profils, de ces plumes, avec, à la fois on l'a entendu, à la fois elles sont de plus en plus jeunes, à la fois chez Emmanuel Macron, mais même chez d'autres candidats, chez ministres, c'est souvent des jeunes, effectivement normaliens, qui presque développent presque une carrière de plumes. Et c'est vrai, en tout cas, ils ont ce choix à un moment donné, moi j'en ai connu, qui doivent à un moment donné dire non, et qui en plus grandissent en même temps que les candidats sur lesquels ils sont censés avoir misé. Qu'est-ce que ça dit, ce changement, peut-être, du statut de plume, on passe des grands écrivains à ces jeunes gens, et qu'est-ce que ça dit peut-être de la parole politique ?
Ce qu'on aperçoit effectivement, c'est des profils aussi beaucoup plus, de plus en plus, même s'ils sont normaniens, techniciens finalement. Là où auparavant c'était effectivement parfois des écrivains, on a vu Régis Debray, Éric Orsenna dans l'entourage de François Mitterrand, ou des personnalités plus politiques. Alain Juppé a démarré comme plume de Jacques Chirac à Matignon en 76. Aujourd'hui, ça devient finalement, il y a aussi tellement de plus en plus de discours que c'est presque une industrie, notamment à Matignon, notamment à l'Élysée. Ce qu'on voit notamment dans toute l'évolution de décennie par décennie, c'est l'explosion du nombre de discours président après président. Officiellement, sous De Gaulle, par exemple, il y avait 67 discours par an. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est un peu plus d'une centaine, mais même parfois, c'est monté à plus de 200 par an. Il y a des discours de plus en plus nombreux, de plus en plus techniques aussi, de plus en plus longs.
En particulier, Emmanuel Macron est connu pour ses longueurs.
Mais on a même l'impression que du coup, il y a aussi des discours de moins en moins personnels, avec des figures de moins en moins fortes. C'est-à-dire que quand on regarde les discours de Mitterrand et même certains discours de Lina, la plume, elle est à la fois plus littéraire, elle est plus chargée de sens, et presque elle est plus engagée dans la description du réel.
Oui. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut donner de plus en plus de détails. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les présidents de la République font des discours qui auparavant incombaient aux ministres. C'est-à-dire qu'ils annoncent des plans pour la jeunesse, pour la santé, etc. Auparavant, c'était beaucoup plus les ministres, les discours de De Gaulle, de François Mitterrand sont beaucoup plus généraux.
Et alors parfois, il y a des erreurs,
oui.
Ça arrive, vous les listez, mais aussi des plagiats.
Oui.
Parce que les plumes ont copié un peu trop rapidement quelque part.
Voilà, il y a deux types de plagiat. Il y a le plagiat qui est le plus célèbre finalement, c'est la dernière campagne présidentielle, Marine Le Pen qui plagie un extrait d'un discours de François Fillon. Il y a aussi des gens qui s'autoplagient, puisqu'on a vu Nicolas Sarkozy s'autoplagier.
Refaire le même discours.
Sur un discours sur l'agriculture, ça avait été repéré par les équipes de Yann Barthès.
Le petit journal.
Et ça l'avait mis très en colère, parce qu'il s'était pas rendu compte lui-même qu'il s'était autoplagié.
Bon, c'est un petit peu moins grave, parce que...
Mais c'est moins grave.
Que personne ne va l'attaquer en justice, à part lui-même. Ouais.
Mais aujourd'hui, les erreurs, ça se voit aussi de plus en plus, parce que c'est de plus en plus difficile de faire aussi des erreurs dans les discours, puisqu'aujourd'hui, il y a un fact-checking de plus en plus présent, il y a les réseaux sociaux, etc. Donc, il y a une grosse part du travail des plumes qui consiste à vérifier leurs propres infos. Là où Christine Albanel, elle dit, pour Jacques Chirac, par exemple, j'ai avancé des chiffres dont je n'étais pas sûr du tout. À l'époque, ça ne gênait pas.
Alors, dans le livre formidable, on promène comme ça, de Make Our Planet Great Again jusqu'à L'homme africain qui n'était pas assez entré dans l'histoire. Ça, c'est Henri Guénaud, discours de Sarkozy. On a bien sûr Villepin, vous l'avez cité. Ces discours nombreux, les petits et les grands, c'est un livre publié chez Plon, Les Plumes du Pouvoir. Un livre signé Michael Moreau. Merci d'être venu ce soir nous en parler. En avril, l'artiste latino-américaine Lorly Rodriguez, auteure-compositrice, interprète, qui s'est fait connaître sous le nom d'Empress Off, va sortir son troisième album Your Empress Off, écrit à Los Angeles entre deux tournées. Son morceau Give Me Another Chance, qu'on écoute à l'instant, est sorti il y a quelques jours avec un clip très élégant, ambiance clubbing aux lumières stroboscopiques. Vous vous souvenez, ça s'appelait les boîtes de nuit, les clubs, hein, qu'on a un peu oublié en ce moment à cause de l'interdiction de se retrouver et de faire la fête en France.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Welcome back.
France Culture, 19h16, on vous retrouve Laurence Herzberg avec un extrait de la bande originale, justement, bande-annonce du festival, ça vous rappelle quelque chose?
Oui, vous avez, là c'était un peu la carte nostalgie, je crois qu'on va avoir l'affiche de festival la plus iconique, c'est-à-dire regarder, ça va être une collector, la bande-annonce va être collector, il y aura beaucoup de choses collector, le t-shirt va être collector.
Il y a eu aussi des affiches par exemple du festival d'Avignon qui avait été annulée, qu'on regarde comme ça avec un certain regard. Revenons sur l'histoire de ce festival, Cérimania, dont on a parlé en début d'émission, mais on en parlait plus sous le registre de l'annulation. Parlons-en plus positivement sous le registre de son histoire. Il a été créé dans... Comment vous avez décidé finalement de le créer entre plusieurs villes? D'ailleurs, c'était assez ouvert, sans parler des élus ce soir précisément, mais il y avait un choix entre plusieurs villes. Finalement, c'est dans la région de Lille que ça s'est fait.
Mais avant ça, c'était à Paris, je crois. Il a été porté pendant longtemps, tel qu'il existe, il est nouveau. Mais
un peu au Forum des Images
autour. Oui, c'était à l'époque où j'étais directrice du Forum des Images. On avait quand même remarqué, on avait flairé, parce qu'à l'époque, on n'en était pas sûr, qu'il se passait quelque chose dans la création audiovisuelle sérielle. Donc on avait créé, avec toutes les équipes du Forum des Images, une activité qui s'appelait déjà Sérimania. Et tout de suite, il y a eu un énorme engouement. Et je vais faire une histoire un peu brève. On m'a chargé d'un rapport. Est-ce qu'on pouvait faire un festival international? J'ai dit oui, on peut faire un festival international. Et l'idée du CNC, du gouvernement, c'était de faire un festival international aussi majeur, aussi comme une référence, comme peut l'être, toute proportion gardée, Cannes pour le cinéma, justement Avignon pour le théâtre, ou Annecy pour l'animation. Alors plusieurs villes se sont proposées, et je dois dire qu'effectivement ce qui a fait la différence, sans les nommer, c'est l'alliance sacrée de mastodontes politiques. Alors on peut peut-être dire leur fonction quand même.
Un président de région et un maire
du Nord et un président de région, qui tous les deux d'ailleurs avaient compris de manière très différente l'intérêt de la culture. Que l'intérêt de la culture dans un territoire quand même difficile, dans un territoire où justement il faut retisser du lien social, l'intérêt de la culture. Et un festival de série, c'était l'occasion unique de contribuer à retisser ce territoire, parce que la série, je dois dire, elle rassemble. Elle intéresse tout le monde, toutes les tranches d'âge et toutes les couches sociales.
Et puis tout le monde, 24h/24 en ce moment, à cause de ce que nous savons. Comment ça se passe? Il y a une procédure, il y a un concours au fond, et puis il y a une ville qui gagne? C'est comme ça que vous l'avez voulu?
Alors, moi en fait,
vous avez rien voulu du tout.
Être honnête, d'abord j'ai rien voulu du tout. Et pour même être plus précise, moi en fait j'ai perdu. Parce qu'en fait, comme j'avais créé ça au Forum des Images avec les équipes et à Paris,
vous défendez Paris, vous.
Je défendais Paris et j'avais un projet pour Paris. Donc très clairement, j'ai perdu. Sauf que et Lille a gagné, mais en fait, c'est la proposition politique, l'envie des élus d'avoir un festival qui a gagné. Et on m'a demandé de le faire, peut-être parce que du coup, ma proposition était quand même la meilleure. J'avais, je dois dire, quand même une petite avance sur les autres.
Alors un festival, c'est plusieurs choses. En l'occurrence, Sérimania, c'est à la fois un festival public, tout public, mais c'est aussi un rendez-vous pour les professionnels. Combien de professionnels devaient venir, a priori?
Sérimania, c'est trois parties. C'est un festival public. L'an dernier, on avait accueilli 72 000 personnes. Un festival professionnel. On rassemble les professionnels du monde entier pour discuter, enfin, de projets, voir quelles pourront être les séries de demain. Et on en attendait 3000 cette année. Et une journée politique qui s'appelle les Dialogues de Lille, où je vais essayer, tout en restant quand même très modeste, juste de donner une image de ce que sont normalement les Dialogues de Lille. Toute proportion gardée, c'est ce qu'on aspire à en faire le Davos de l'audiovisuel. C'est-à-dire de rassembler en une journée, vous avez souri Frédéric Martel.
Pas du tout.
Si, si, mais
non.
Je retiendrai cela. C'est d'en faire un lieu en France où on rassemble les points de vue entre les Américains et les Européens, les organismes de régulation comme le CSA ou d'autres, parce qu'on sait que nous n'avons pas les mêmes points de vue, que le copyright c'est pas la même chose, que la circulation des œuvres c'est pas la même chose, et donc l'idée c'est d'avoir des rendez-vous formels et informels.
Parce qu'il existe, il n'existe pas encore ce lieu pour le moment.
Ben en fait, alors là pour le coup, le dialogue de Lille cette année aurait été, mais alors une explosion, tout le monde voulait venir, ainsi que les nouveaux commissaires, expliquer la politique des commissaires, les studios américains, des ministres de la culture européens. Voilà.
Alors toujours sur ce festival, vous avez non seulement cet événement qui a lieu à Lille, enfin qui devrait avoir lieu à Lille, et puis des projets ailleurs, des filiales, on peut les appeler comment, des sœurs, des événements sœurs, que vous essayez de développer dans d'autres endroits du monde.
Oui, alors ce qui est bien lorsque on crée un nouvel événement comme un festival de série, c'est que nous n'avons à nous inspirer d'aucun modèle.
Mais c'est une page blanche.
C'est une page blanche. Les festivals de cinéma, eux, sont un peu plus concurrents et sont obligés de s'observer les uns les autres. Nous, ce qu'on avait envie de faire, c'est que ce festival, qui est quand même le festival de la France, puisse aller à l'extérieur, puisse rayonner et effectivement, très clairement, puisse que la marque soit très forte à l'extérieur. Donc, on a déjà créé un Sérimania à Melbourne. On espère en créer un quand tout ça sera parti, enfin ne sera plus qu'un mauvais souvenir, en Corée, en Amérique latine et éventuellement en Inde. C'est-à-dire que Sérimania aura des événements sœurs dans ces quatre coins du globe pour faire voyager et pour montrer les séries européennes et françaises.
Comme Basel par exemple pour l'art contemporain ou d'autres festivals qui sont développés à Dubaï, à Beyrouth ou dans d'autres villes qu'ils choisissent. Pourquoi ces villes-là d'ailleurs? Pourquoi Melbourne? Pourquoi la Corée, l'Inde, et où en Amérique latine éventuellement?
Cyniquement parce qu'elles sont suffisamment loin pour ne pas faire concurrence
à votre
à
bébé lillois.
Et aussi parce que pour les professionnels notamment, ou le public qui est là-bas, c'est plus difficile pour eux de venir à Lille. Et puis aussi parce qu'elles sont porteuses de véritables écosystèmes audiovisuels. On le sait peu, mais la Corée, dont maintenant tout le monde connaît le cinéma, dont tout le monde connaît aussi la musique,
la K-pop,
ces séries voyagent assez mal. Or, il y a des séries extrêmement intéressantes, des séries fantastiques, dont moi, j'allais en montrer certaines. Et du coup, c'est une occasion d'aller leur dire, entrer en contact avec l'Europe, entrer en contact avec la France, on vient vous amener des séries européennes et on prendra des séries coréennes.
Combien vous deviez en montrer? Combien est-ce que vous en avez vu depuis pour la sélection de cette année? Et vous êtes combien pour voir toutes ces séries? Plusieurs centaines?
On en a vu 483.
483.
On a vu 483 avec cette année une particularité, c'est qu'on a fait vraiment le tour du monde. Tous les pays, en fait, produisent maintenant des séries. C'est vraiment une activité audiovisuelle, un genre culturel qui réunit l'ensemble des pays. Et on allait accueillir des séries d'Afrique, de Singapour, du Chili, du Pérou. Des 483, on allait en montrer 74.
Il y en a certains à la boîte qui persistent à penser que ton bilan est globalement positif. T'en penses quoi? Faudrait d'abord quand même évaluer le champ de tout ce que t'as compromis. Ce que t'as livré à la CIA. Ce que t'as livré aux Russes. Je ne te fais pas l'affront de penser que t'as aussi pu collaborer avec Daesh. De se poser des questions.
À l'instant, l'extrait de la bande-annonce de la saison 5 du Bureau des Légendes qui sort début avril, Emmanuel Paquette, sur laquelle vous avez d'ailleurs écrit un long papier pour l'Express.
Oui, c'était plutôt anecdotique, mais en l'occurrence, il devait y avoir une avant-première à la DGSE, boulevard Mortier, donc cette semaine, donc dans une salle ou dans un auditorium de plusieurs centaines de personnes. Donc vous imaginez bien qu'a priori, l'avant-première, qui ne m'avait pas été confirmée ni affirmée par les services de renseignement extérieur, ne devrait pas avoir lieu. L'an dernier, la DGSE avait invité ce qu'on appelle le premier cercle du renseignement français. Donc, il y avait également la DRSD, donc le renseignement militaire, la DRM, un autre service du renseignement militaire, la DGSI, les services intérieurs, la DRSD, donc les renseignements douaniers, et TRACFIN, donc les renseignements
financiers.
Non, mais voilà. C'était donc parce qu'en fait tous les services de renseignement sont jaloux et aimeraient avoir leur série éponyme. Ouais. Donc la DGSI essaye d'avoir sa propre série et la DRSD aussi.
Voilà, c'est pas le Bureau des Légendes qu'on vous recommande d'ailleurs, série formidable. Ça occupe les soirées, ça occupe même les journées
même,
en ce moment.
La série la plus vendue au monde, je dirais française, la plus vendue au monde, je crois, aux États-Unis, la plus vue au monde, pardon, pas la plus vendue.
Non, pas la plus vendue.
Le Bureau. C'est laquelle la plus vendue bien. Parce que j'ai vu que ça se jouait entre Plus belle la vie, Engrenage, et c'est quoi la plus vendue?
Alors, Engrenage est une série
qui se vend bien.
Spiral, qui se vend extrêmement bien et qui est connu vraiment à l'étranger. Mais il y en a d'autres. Les séries françaises s'exportent relativement bien, peut-être moins bien que d'autres, mais quand même 10% c'est Call My Agent et ça marche.
Et moi, je,
voilà. Et on me disait quand je faisais des voyages comme ça de recherche aux États-Unis il y a un an, on me disait est-ce que vous connaissez Call My Agent sur Netflix? C'était voilà, c'est l'arrivée sur des grandes plateformes internationales. Ça permet aussi aux séries françaises ou européennes d'avoir des succès internationaux.
Laurence Herzberg, vous êtes directrice du Festival Sérimania. On va parler maintenant, dans la dernière partie de cette émission, des séries télé et des séries d'ailleurs au sens large, puisque votre festival, c'est les séries compris, le terme est compris au sens large, définition ouverte, hein, y compris les podcasts natifs, par exemple.
En fait, ce qu'il y a surtout, c'est que j'ai lancé au départ, il y a 10 ans, un festival de séries télé. Mais 10 ans après, ça ne peut plus s'appeler un festival de séries télé parce qu'elles ne se regardent pas, elles ne se consomment pas sur des écrans ou plus sur des écrans de télévision. C'est ça, c'est devenu maintenant un festival de séries. Car vous les regardez sur votre ordinateur, vous les regardez sur un écran de téléphone portable, vous les écoutez effectivement en podcast. C'est maintenant juste un festival de séries.
Qu'est-ce que vous voyez apparaître, vous qui voyez tant de séries? Quels sont les sujets, mais pas simplement les sujets, aussi les environnements, les questionnements?
Alors, il y a souvent des grandes tendances par année, comme on en voit quand même plusieurs centaines. On peut toujours trouver des tendances. Et c'est d'ailleurs assez paradoxal, parce que nous nous rendons compte de tendances que les scénaristes, bien évidemment, n'ont pas vues. Il y a quelques années, c'était une tendance sur l'enlèvement des enfants. Ce qui était très très particulier, jusqu'à ce qu'à un moment je me dise, mais qu'est-ce que les enfants ont fait à toutes ces familles de scénaristes pour qu'à chaque fois on les enlève?
Il y avait les grands événements au Mexique, par exemple, sans doute, qui avaient joué un rôle.
Non, mais c'était aussi une tendance européenne. Alors, on a moins cette tendance. On a eu, alors pardon pour rester dans l'actualité, une tendance virus. On a très clairement une tendance virus. Et on peut toujours se dire d'ailleurs que... c'est bien de rappeler qu'il y a toujours un rapport entre l'actualité et la consommation audiovisuelle. Je pense que vous savez tous qu'un des films les plus regardés en ce moment, c'est Contagion de Soderbergh. Et là, il a fait un boom absolument inimaginable, qui est premier dans les charts. Tout le monde regarde Contagion. Mais nous, on avait déjà montré en 2014 une série flamande à l'époque très intéressante qui s'appelait Cordon, qui était un cordon sanitaire autour de la ville d'Anvers à la suite justement d'un virus. Je crois que la même année, on avait montré une série coréenne autour d'un virus. Et puis bon, vous connaissez tous The Rain, il n'y a pas très très longtemps, de Netflix. Donc il y a comme ça des tendances, mais qui permettent, et c'est ça qui est intéressant, des aspects différents. Dans Cordon, ce qu'on voulait voir, c'était ce que les scénaristes montraient, c'était les rapports entre les gens. Et ceux qui essayaient de franchir les barrages, ceux qui au contraire voulaient rentrer dans la zone infectée pour être près de leur famille. Tandis que dans la série coréenne qui s'appelait The End of the World, ce qui les intéressait, c'est la bataille des scientifiques. Mais à la fin, de toute façon, de toutes ces séries de virus, et on est dans l'actualité, c'est la transformation des sociétés et qu'est-ce que l'humain en a fait et comment on analyse les rapports entre les gens.
Alors là, il y a eu effectivement la version virus, il y a eu la version disparition, où les gens qui disparaissent, il y en a eu plein, ou les gens qui réapparaissent, mais on ne sait pas pourquoi. Là, il y aurait eu, et il y a parmi les séries que vous aviez d'ailleurs en sélection et que vous aviez montrées, il y a eu toute une foule de séries, ce qu'on a appelé post-MeToo. Sur l'éducation sexuelle, sur des personnages avec des personnages LGBTQI, des personnages transgenres, des personnages qui sont des personnages qui ne correspondent pas à des clichés de genre. La France l'a fait, mais pas beaucoup. Moins qu'aux États-Unis et ailleurs, me semble-t-il.
Avec des différences très grandes d'un pays à l'autre.
Oui, c'est ça. Je voudrais parler un peu de ce mouvement qu'on s'est rendu compte, dont on s'est rendu compte du post-MeToo. Oui. Alors, c'est vrai, depuis quelques années, je ne sais pas si c'est post-MeToo, il y a énormément de séries mettant en scène des personnages LGBT plus ou l'arrivée de personnages transgenres. Ça, c'est très nouveau et c'est souvent dans les séries pour jeunes. Mais le post-MeToo, ce qui nous a beaucoup fascinés dans le post-MeToo, c'est la différence de réponse entre les scénaristes du monde entier. Ils se sont tous posé la question, mais ils ont apporté des réponses différentes. Et si vous me le permettez, je vais donner quelques exemples. Au Japon, Behind the Door, qu'on allait montrer, c'est comme s'il n'y avait eu aucun MeToo au Japon. On va suivre un personnage d'une femme membre d'un jury qui va juger une femme infanticide. Et toutes les femmes dans ce jury, on va les voir chez elles, où elles vont continuer à servir leur mari. Là, il n'y a eu aucun MeToo.
Et ils veulent le dénoncer peut-être
subtil, ouais. Parce qu'au Japon, c'est effectivement assez subtil. On voit bien quand même qu'il y a quand même un problème de ces femmes qui sont là. Il faut amener une bière, mais comment, le repas n'est pas prêt, etc. À l'opposé, dans un endroit totalement différent du monde, La Joya, qui était une série chilienne, nous a extrêmement impressionnée. D'abord parce que celles qui vont porter le message post-MeToo, ce sont des lycéennes. Des lycéennes qui d'abord vont s'insurger contre le travail fait par leur professeur de théâtre en le accusant d'harcèlement. Le professeur de théâtre va répondre en disant « ce n'est pas du harcèlement, le théâtre c'est pousser quelqu'un dans ses retranchements et donc si je pousse une jeune fille en vidéo à mimer le plaisir, c'est un acte de théâtre ». Parallèlement, donc elles vont essayer de bloquer le lycée, il y a en même temps une disparition d'une de leurs camarades. Les jeunes hommes du lycée sont totalement hermétiques à ça. En plus, soutenus par leurs parents qui veulent absolument qu'on continue et que les activités du lycée continuent. Et comme sous-couche, il y a une secte masculiniste qui kidnappe des jeunes filles et les tue en disant on doit remettre les femmes à la place qu'elles n'auraient jamais dû quitter, qui est celle d'objets sexuels. Donc on voit bien que les réponses sont très différentes. Et puis, on pouvait peut-être commencer quand même sur le Morning Show d'Apple, quand même, où il y avait aussi des choses très intéressantes. Il y a des personnages, et on l'a vu, nous, dans plusieurs séries, des personnages masculins qui commencent à dire « Mais pourquoi croirait-on plus les femmes qu'on ne me croit moi ?» C'est une grande richesse de réponse.
Alors après, on s'aperçoit qu'il y a des séries qui sont très violentes et qui dépassent de loin la réalité. Et puis finalement, la réalité rattrape la fiction. Si on prend Black Mirror, le fameux premier épisode que vous aimez, j'imagine, autant que nous, on s'aperçoit que c'est l'histoire de la truie. Hein, et on s'aperçoit finalement que c'est pratiquement ça qu'on va retrouver sous une autre forme, bien sûr, dans une violence politique en France aujourd'hui.
Oui, alors c'est vrai, vous savez, mon équipe, l'équipe de programmation, on est 6 à la programmation, chaque fois qu'il se passe quelque chose...
Pour voir les 483, donc oui, ça nous rassure.
Non, parce qu'on les voit à plusieurs, parce qu'un avis seul, ça ne suffit pas, non. Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde, ça nous fait « Ah, tiens, ça, c'était telle série okay. ». Donc c'est vrai que l'épisode, Griveaux, quand on s'est retrouvés tous le lundi matin, on a pensé, bien évidemment, au premier épisode
de Black Mirror.
Et donc, et ça nous a donné aussi l'idée de faire des tables rondes sur la violence en politique. Est-ce que les séries s'en emparent? Est-ce que c'est un miroir, en fait, des séries? On ne sait plus qui inspire l'un de l'autre. Si vous regardez Baron Noir, et je ne vais pas spoiler la série, mais le dernier épisode de la saison 3 de Baron Noir est plus fort que la réalité. Donc, les séries politiques, et on peut parler des séries politiques, elles sont... extrême, elle colle à la réalité. Les scénaristes s'emparent énormément de la politique. Les scénaristes sont ceux, les scénaristes de séries sont les artistes, sont des artistes, les créateurs qui rendent le mieux le compte du monde, qui expliquent le mieux la réalité du monde. Ils prennent toujours des personnages, plusieurs. C'est ça une série. On prend plusieurs personnages qu'on va suivre sur une dizaine d'heures, qu'on place dans une arène plus large.
C'est ça la grande différence avec un film, finalement.
C'est ça la grande différence.
On traite toute une série de personnages à la fois.
Mais ce qui explique que l'on peut rentrer beaucoup plus dans l'explication du monde.
Et la complexité aussi, évidemment, de Game of Thrones ou The Wire ou à la Maison Blanche, parce qu'on a la possibilité de jouer sur tout un tas de personnages qui vont vivre et se poursuivre. Emmanuel Paquet, justement, le New York Times nous a proposé une sorte de sélection, de bilan des meilleures séries télévisées.
Les meilleures séries étrangères, effectivement. Ils ont fait le top 30, et dans le top 30, il y a 3 séries françaises, dont effectivement, qui arrive en 3e position, le Bureau des Légendes, et puis des créations coréennes, dont vous parliez précédemment aussi, qui ont été sélectionnées par le New York Times. Donc c'est la première fois que le New York Times reconnaît dans sa liste des productions étrangères sur le territoire américain, et qui ont plutôt bien fonctionné. Moi, j'avais une petite question, puisque on parle souvent du pic des séries télé, comme on parle du pic oil, c'est-à-dire un pic de production et pour le pétrole qui après chute. Et là, on prévoyait une explosion en 2015. Et là, l'an dernier, il y a eu 532 productions aux États-Unis contre 496 l'année d'avant. Est-ce que vous craignez pas qu'à un moment donné, quand même, il y ait une bulle qui se crée et une explosion d'une bulle et donc dont vous seriez indirectement une victime?
Alors d'abord, moi je ne serais pas une victime forcément de la bulle parce que justement, plus il y a de séries, plus un festival est nécessaire. Parce que au départ, il y a 10 ans, le festival servait à montrer aux gens la créativité et la création internationale. Maintenant, le festival sert à guider les choix.
Oui,
mais
sélection. Parce
que là, vous faites de vrais choix, sert à éditorialiser. Quand on parle des séries politiques, et quand on dit que les séries, maintenant, c'est l'art de faire de la politique, et il faut s'y intéresser, on vous décrypte le monde sous l'angle de la fiction, c'est essentiel. Quand vous parlez de pic cultivé, c'est-à-dire au moment où il va y avoir trop, on n'y est pas du tout. Les plateformes américaines, actuellement, sont dans une, se livrent une guerre sans merci. Pourquoi elles se livrent une guerre sans merci? Parce que le public, maintenant, est arrivé à maturité. Les Américains ont entre $100 et $150 d'abonnement par personne. On ne peut plus... Voilà, on sait très bien que le public ne va pas dépenser plus.
Et malgré tout, l'arrivée de Disney+, d'Apple, de HBO dans sa version, Canal+, est là, bientôt donc, Salto, etc.
Il faut prendre aux autres. Pour prendre aux autres, il faut produire plus et changer encore plus. Donc pour l'instant, on n'y est pas du tout. Plus entre en jeu maintenant, de la part des plateformes américaines, l'intérêt pour ce qu'ils appellent les territoires locaux, c'est-à-dire l'Europe ou l'Amérique latine, ou pour justement avoir d'autres abonnés, augmenter leur public, il faut produire local. Donc on a maintenant un boom des productions dites locales de ces marchés dits locaux.
Mais effectivement, d'ailleurs, c'est intéressant quand même de regarder votre sélection. Là, parmi les, vous avez du Chili, vous avez de la Norvège, il y a Israël qui était qui a toujours été un producteur historiquement assez fort. La Norvège, mais effectivement, le Chili, on connaissait pas beaucoup de Japon, une série australienne, la Corée, le Pérou. La Grande-Bretagne, évidemment, ça c'est plus classique. L'Islande, l'Afrique aussi. Qui sont en fait, qui produit là-bas et quelle est la force de ces séries? Et puis autre question, quand vous faites un petit peu cette sélection-là, c'est des sélections qui essayent de contenter tout le monde. Je regardais votre sélection française aussi, parce qu'il était censé y avoir un free français. Il y a un peu tout le monde, mais il n'y a pas Netflix, j'ai l'impression. Je ne sais pas si je me suis trompée
ou
pas.
Non. Il y a Netflix et l'an dernier, on a eu une magnifique avant-première Chambers avec Uma Thurman de Netflix. Ce qu'on a essayé de faire cette année dans la sélection, comme à un moment, c'était la guerre des plateformes américaines faisait qu'elles gardaient plus leurs séries américaines pour elles, sur leur territoire, et qu'elles essayaient, elles étaient moins, ce qu'on appelle dans le jargon, edgy, un petit peu différenciantes, on en a profité pour faire un tour du monde, en fait. Et cette année, c'est la première année où on allait montrer des séries de 25 pays différents, alors que l'an dernier, il y en avait 19. Alors, il y a toujours des pays qui sont très forts. Israël, même si c'est un petit pays, a un art de la narration et va nous faire découvrir des sujets toujours très forts. Les Scandinaves aussi, ils se sont maintenant éloignés de ce qu'on appelait le Scandic noir. On a tous regardé sans arrêt des séries policières, fantastiques, noires, etc. On a découvert les paysages de Scandinavie grâce à ces séries, restent toujours fortes. L'Angleterre, ils osent tout, toujours, les Anglais. Je vais reprendre un dernier exemple dans ce qu'on parlait de MeToo. On avait une série sur qui venait de Channel 4 qui s'appelait Adult Material, où le personnage principal est une actrice pornographique, une actrice porno, et qui est en même temps mariée et qui a des enfants. Elle va défendre les droits de ses camarades qui font comme elle du porno, et en même temps elle s'occupe de ses enfants. Il y a cette réplique extraordinaire quand même dans la série où, comme tous les parents, elle est à un moment convoquée par le principal, enfin on connaît tous ça, et qu'elle lui dit « Oui, je suis peut-être actrice porno, mais le soir à 8h, je cuisine et je vérifie les devoirs. » Donc on voit bien que ça, seuls les Anglais peuvent l'oser. Nous, on a des séries françaises cette année d'excellentes factures. On avait une sélection française absolument impressionnante. Je suis pas sûre qu'on aurait pu faire ça. Mais on tentait beaucoup de choses. Les Français cette année tentaient beaucoup de choses.
Cheyenne et Lola, La Garçonne, Ils étaient 10, Moa, Parlement, Romance. Qu'est-ce que c'est que toutes ces séries?
Alors, elles sont très variées. C'est ça qui est très intéressant dans la production française, c'est qu'elle n'a pas une ligne directrice. Je vais prendre Cheyenne et Lola, qui est une série produite par OCS. C'est deux personnages, deux jeunes femmes un peu paumées qui vont s'unir parce qu'elles n'ont pas d'argent et qu'elles vont essayer de se révolter. Par ailleurs, Romance, qui est une série du service public. On est là dans les années 60. C'est magnifique, c'est extrêmement romantique. Il y a beaucoup de chansons. Dérapage, qui est une série d'Arte, là, qui est adaptée d'un livre, qui est le livre de Pierre Lemaitre, Cadre noir. Là aussi, on est dans le social. Donc, il y a une immense variété maintenant des séries françaises, et c'est ça qui rend la production française intéressante cette année.
Pour terminer cette émission, je vous propose chacun d'entre vous de peut-être défendre une série, ou plusieurs d'ailleurs, rapidement.
Que les gens peuvent voir, c'est intéressant.
À la fin de cette émission, parce que évidemment, on est contraint de rester beaucoup plus chez soi que d'habitude. Alors certes, les enfants d'Emmanuel Paquette ont leur devoir à faire avec leur père, mais le père fera peut-être autre chose. Et les séries télé, c'est une des possibilités de s'occuper. On commence peut-être par vous, Laurence Herzberg, vous êtes directrice du Festival Sérimania. Vous recommanderiez quelle série accessible en ce moment parmi des milliers?
C'est compliqué. Alors là, il faut que je fasse backwards, en arrière. Alors, je pense qu'elle est encore accessible. Moi, j'ai un tropisme série politique parce que je pense qu'il faut qu'on nous explique le monde et les scénaristes le font. Je conseillerais Our Boys sur Canal+, la série de Hagai Levy qui, à partir d'un fait divers, l'assassinat d'un jeune Palestinien, va montrer la réalité politique en Israël. Et voilà.
Moi, je voudrais parler d'une série qu'on trouve sur Netflix, mais qui n'est pas une série Netflix, qui est Crazy Ex-Girlfriend, qui est une génialissime série sur le féminisme et sur la maladie mentale. Et ça nous ferait du bien en ce moment, avec l'extraordinaire humoriste américaine Rachel Bloom. C'est une série superbe.
Emmanuel Paquette.
Moi, la série que j'ai préférée ces derniers temps, c'est Watchmen, donc une série à HBO qui passe sur OCS, si vous voulez la voir. C'est vraiment une série incroyable que j'ai découvert récemment.
Et puis moi, je termine avec deux séries, enfin plus précisément une qui est The Young Pope de Paolo Sorrentino, la deuxième saison sur Canal+ avec Jude Law et Diane Keaton, et désormais John Malkovich qui a intégré la distribution dans le rôle de Sir John Brannock, je crois, nouveau pape sous le nom de Jean-Paul III, tiens, comme par hasard. Et puis Les Deux Papes, là c'est pas une série mais c'est un film, mais sur Netflix. Anthony Hopkins, formidable dans le rôle de Benoît XVI, et Jonathan Pryce dans celui du cardinal George Bergoglio, futur pape François. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci infiniment Laurence Herzberg d'avoir été avec nous ce soir. Vous êtes la directrice du Festival Sérimania qui a hélas été annulée, mais qui va continuer. Vous préparez sans doute déjà la saison pour 2021. Pour aller plus loin, références, articles et livres dont on a parlé durant cette émission, c'est sur notre site France Culture, sur la page de l'émission Soft Power. Dans un instant, on se retrouve pour une soirée complète, soirée électorale jusqu'à 22h. En attendant ce rendez-vous, il est 19h44 sur France Culture.